إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous poursuivons aujourd'hui l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة شيخنا عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه. Donc dans les cours précédents par rapport au livre, comme on vous l'a expliqué, c'est que le cheikh en fait il va expliquer certains passages du Coran, et pas tout le Coran bien sûr. Et le cheikh lui en fait il va mettre en évidence ce qui lui a apparu parmi les trésors du Coran. C'est pour ça qu'il a nommé son livre Min Kunuz el Qur'an. Comme on a déjà expliqué le terme Kunuz, qui est le pluriel de Kanz. El Kanz, c'est bien sûr El Kanzu, c'est le trésor. D'où en fait le titre du livre. Et le cheikh, comme on l'a dit, après avoir expliqué Al-Fatiha de façon complète, comme ça on a vu l'explication, et on a terminé l'explication de cette sourate, il a commencé avec sourate Al-Baqarah. Et il nous a dit donc qu'il allait en fait prendre certains passages de sourate Al-Baqarah. Donc quand on dit passage, bien sûr, ça peut comprendre plusieurs versets à l'intérieur d'un seul passage. Ce n'est pas en fait des versets, mais on va dire des passages qui vont contenir en fait plusieurs versets. Et on avait dit par rapport à sourate Al-Baqarah que le cheikh en fait il avait pris exactement 22 passages. Il a pris en fait 22 passages. Et ensuite de suite, il va passer donc à sourate Ali Imran, sourate An-Nisa, etc. Et à chaque fois, il va prendre en fait des passages et il va mettre en évidence les trésors qui se trouvent à l'intérieur de ce Coran. Donc, la semaine dernière, en commençant sur Sourate Al-Baqarah, on avait expliqué en fait le premier verset. On avait expliqué le premier verset, Alif Lam Mim. Et on avait vu en fait quelle était la signification de ce qu'on appelle Al-Huruf Al-Muqatta'a. C'est-à-dire les lettres en fait qui ont été séparées et qui viennent en début de combien? De 29, comme on avait expliqué, de 29 sourates du Coran. Et donc on avait expliqué en fait quelle était la hikmah, quelle était en fait la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ait commencé certaines sourates de son Coran, de son Coran, de son livre par ces lettres-là. Et donc on s'était arrêté à l'explication. Donc le premier verset aujourd'hui, ou le deuxième verset, c'est le suivant. « يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » C'est-à-dire en langue française, le sens, la signification approximative de ces versets, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc le terme ici, Raib, le terme qui est expliqué ici là, Raib en fait, c'est bien sûr Ashak. Marna Ar-Raib, c'est Ashak. Donc en fait, Marna l'Ashak Kafi. L'Ashak Kafi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute au sujet de ce livre. Et bien sûr, Ashak, c'est le contraire de Al-Yaqin. Le Shak, son contraire, c'est Al-Yaqin, c'est-à-dire la certitude. Et c'est pour ça en fait que ce terme-là revient par rapport à la religion. Pourquoi? Parce que le shak, le doute, il est interdit au niveau de la religion. Et c'est même pour ça que parmi les conditions d'acceptation de la ilaha illallah, c'est-à-dire kalimat al-tayyiba, kalimat al-tawhid, c'est pour ça que parmi ces conditions d'acceptation, al-yaqin, c'est-à-dire qu'on ait la certitude lorsqu'on dit cette parole qu'il n'y a bel et bien pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça en fait que ça fait partie, al-yaqin, ça fait partie des conditions. Et le contraire bien sûr de al-yaqin, c'est-à-dire de la certitude, c'est ash-shak. C'est quoi? C'est ash-shak. Donc il n'est pas permis, il est interdit aux musulmans d'avoir un doute, que ce soit par rapport au livre ici, ou que ce soit par rapport à la religion de façon générale. Wa shakku kufrun, c'est-à-dire que le doute fait sortir de l'islam, le doute et le kuf et la mécréance. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitabihi إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية. Et qu'est-ce que veut dire ce verset? إنما المؤمنون. وإنما c'est pour l'exclusivité, c'est-à-dire les vrais croyants, ceux qui sont exclusivement des croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah et en son prophète. ثم لم يرتابوا, c'est-à-dire ensuite ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas eu de doute. Ils n'ont pas eu de doute par rapport à cela. Ils n'ont pas eu de doute. Lam yartabu. Yaqul Allah, dhalika al-kitab. Dhalika al-kitab. À partir de là, al-kitab, donc on voit en fait qu'il y a le alif ou al-lam. Donc c'est ce qu'on appelle, au niveau de la langue, c'est ce qui est défini. Donc ici, le livre, il est défini et il n'est pas indéfini. Il est défini et il n'est pas indéfini. C'est-à-dire al-kitab. Donc à partir du moment où il est écrit al-kitab, avec le alif al-lam, on va comprendre en fait que c'est un terme qui est défini. Et le chien, en fait, à partir de là, il va expliquer. Il va donner son explication. Et il nous dit en fait que le alif al-lam fihi lil-ahd. Ay al-kitab al-ma'hud fi ash fil-adhan. Et c'est ce qu'on va appeler en fait al-ahdu al-dhihni. On va voir en fait qu'il y a deux sortes de ce qu'on appelle ici al-ahd. Al-ahdu al-dhihni ou al-ahdu al-dhikri. Al-ahd wa-dhihni ou al-ahd wa-dhikri, on va donner des exemples et ça va nous permettre en fait de comprendre aussi un des procédés au niveau de la langue arabe de façon générale et aussi au niveau du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, bien entendu, il a été descendu dans une langue arabe mubine, c'est-à-dire très claire. Lorsqu'on dit en fait al-ahd, c'est-à-dire que lorsqu'on dit ici, lorsqu'Allah Azzawajal dit al-kitab, Allah Azzawajal, il veut par là un livre bien précis. Il veut un livre bien précis. Et lorsqu'on dit fil adhan, vous savez que adhan, qui est le pluriel de adhan, au niveau de la langue arabe, ça veut dire, on peut traduire en fait cela par la compréhension. On traduit aussi adhan par la raison, parce qu'il par la raison, par l'intellectuel, etc. Mais ici, lorsqu'on dit al-ahd, adhani, on veut dire par là la compréhension. C'est-à-dire qu'on va comprendre alif ou al-lam, ou qu'on va comprendre exactement ici que ce livre qui est connu, un livre qui est connu ici, que ce livre-là, on va le comprendre par rapport en fait à notre compréhension. C'est-à-dire la compréhension qu'on va avoir à partir du verset. Donc en fait, ici, c'est une question de compréhension. Alif ou al-lam ici va venir où on va pouvoir connaître le livre à partir en fait de quoi? À partir en fait de notre compréhension. C'est pour ça qu'on dit en fait al-ahdu al-dhihni, c'est-à-dire quelque chose qui va être connu, qui va être défini et que l'on va connaître à travers notre compréhension. Et en fait le shir ici il nous dit que al-kitab ou al-qur'an, Allah Azza wa Jal a voulu par ce livre al-qur'an, et en fait ce qu'on comprend à travers le livre, ce qu'on comprend en fait à travers le Coran, lorsque ensuite Allah Azza wa Jal va continuer les versets. ويقول الشيخ قد جاء ذكر الكتاب في القرآن كثيرا والمراد به القرآن العظيم من ذلك في أول سورة آل عمران ويونس ويوسف والرعد والحجر والشعراء والنمل والقصص. على كل حال va nous donner plusieurs exemples de sourates où vient le terme al-kitab, et qu'on veut par ce terme là, qu'Allah Azza wa Jal veut par ce terme quoi? Il veut en fait Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran. C'est pour ça que le Cheikh également il nous dit fi surat Maryam, il y a un verset qui est rappelé 5 fois, ou une partie d'un verset qui est rappelé 5 fois, c'est Wazkur fil kitab. Wazkur fil kitab, c'est-à-dire rappel dans le livre. Le livre ici, bien entendu, c'est le Coran. Et c'est pour ça que le Cheikh il nous a dit que lorsqu'on entend ce terme Al-Kitab, il revient souvent à quoi? Et de par notre compréhension, on va comprendre que c'est en fait le Coran. Et ça, c'est souvent dans le Coran. Bien entendu, c'est pas tout le temps. C'est pour ça qu'ensuite, le Shir, il va nous dire que également par le terme Al-Kitab, Allah Azza wa Jal veut dire aussi Al-Tawrah, comme il va nous donner les exemples. C'est-à-dire la Torah, le livre qui est descendu sur Moïse et qui est descendu sur les Juifs. Non. Ensuite, yaqul al-Shir, wa ja'a dhikru al-kitab bil-lafz al-mufrad muradan bi al-jins ay al-kutub, مثل قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والكتاب. Le cheikh en fait il va nous expliquer que également lorsque vient le terme al-kitab dans le Coran, ça veut vouloir dire aussi le jar. Ça veut vouloir dire le jar. C'est ce qu'on appelle en fait al-jins. Muradan bi al-jins. Et ça on l'avait déjà vu dans les cours sur les repères de la Sunna ou sur le livre les repères de la Sunna. On avait déjà expliqué cela. Et en fait, donc à partir de là, il arrive que dans certains versets, lorsqu'on dit al-kitab, Allah Azzawajal veut dire par là l'ensemble des livres. C'est pour ça qu'on dit le jar. Le livre, le jar, c'est-à-dire le jar des livres d'Allah, c'est-à-dire tous les livres d'Allah. Et donc le verset qu'il va nous citer, c'est aussi dans surat Al-Baqarah, et c'est le verset 177. La traduction du verset, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Donc on voit ici que le terme n'est pas venu au pluriel, c'est-à-dire « wal-kutub ». Mais il est venu au singulier, al-kitab, et donc al-muradu bihi jins al-kitab, c'est-à-dire l'ensemble de tous les livres. Et ça c'est important, c'est-à-dire que tu dis en fait le livre, mais tu veux dire par là, le jar qui est le livre. Et donc tout l'ensemble va entrer dedans, à l'intérieur de ce terme-là, tout l'ensemble des livres. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre cela. Et donc dans l'exemple qu'il nous a donné le shir, qui est sur la 177 de la vache, on voit ici que le terme al-kitab, ça veut dire tous les livres. C'est-à-dire que bien sûr, le croyant, celui qui a cru en Allah et au jour du jugement, au jour dernier, également aux anges et également aux livres. C'est-à-dire qu'on va traduire en fait, si on prend au niveau de la traduction, à tous les livres qu'Allah Azzawajal il a descendus, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. Ou également « wal-nabiyyin ». Donc on voit en fait que « al-nabiyyin », le terme qui est après, c'est-à-dire les prophètes est venu au pluriel et le terme qui est venu avant, c'est-à-dire le livre, ou « al-kitab », c'est « au singulier, al-kitab au singulier et al-murad oubili, donc on le redit, c'est l'ensemble des livres. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que al-kitab, il peut vouloir avoir aussi cette signification. Mais on va le comprendre en fait, et les savants al-mufassiroun, ils vont nous l'expliquer d'après bien sûr la compréhension et d'après l'exposition min siyaq al-aya, c'est-à-dire d'après l'exposition du verset, comment le verset est exposé, à partir de là on va comprendre la signification du terme al-kitab. Il nous donne un autre exemple aussi, le shir, toujours pour vouloir dire que al-kitab, ça veut vouloir dire l'ensemble de tous les livres. Yaqul Allah Azza wa Jal, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Al-Kitab. Donc également ici, suivant l'exposition du terme dans le verset, on va comprendre que Al-Kitab, ça veut vouloir dire tous les livres. Et donc le verset, c'est il est fi surat kadhalik al-Baqarah, les gens formaient à l'origine une seule communauté, une communauté croyante. Puis après leur divergence, c'est-à-dire après leur divergence, entre parenthèses, Allah a envoyé des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Et donc, bien sûr, il en traduit ici le livre, et le livre, ça veut dire l'ensemble de tous les livres. C'est-à-dire l'ensemble des livres. Quand Allah Azzawajal a envoyé des prophètes, des messagers, Mubashirin wa Mundirin, c'est-à-dire qui font bonne annonce et qui mettent aussi en garde, et les a envoyés, c'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé, qu'il n'a pas fait descendre le même livre pour chacun, mais que chacun va avoir en fait un livre. Donc à partir de là, on comprend que Marna al-Kitab ici, ça veut dire l'ensemble des livres. Bon, ça c'est important à voir et à comprendre pour comprendre en fait ce terme-là et qu'il a plusieurs significations suivant en fait son exposition dans les versets. Taïb, il nous donne encore un autre exemple, le Shir, et c'est le dernier verset qu'il donne comme exemple. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Et le terme ici encore, al-kitab, ça veut dire l'ensemble des livres. Al-kutub, l'ensemble de tous les livres, comme on a dit. C'est pour ça que le shaykh يقول والالف واللام فيها لاستغراق الجنس. C'est-à-dire لاستغراق الجنس, c'est-à-dire que tous les livres ou tout le jar en fait, ce jar là qui est le livre, vont être compris dans ce terme-là. Al-Alif wal-Lam, Al-Kitab. Et le verset, celui-là, c'est Fil-Hadith, c'est-à-dire surat le fer, et qui est le verset 25. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance. Donc le livre ici est marsoud, les livres. Et également le shir, il va nous donner un exemple. Il va nous-même nous donner deux exemples que Allah Azzawajal, dans le même verset, il va citer deux fois Al-Kitab. Deux fois il va citer Al-Kitab. Une fois, il va vouloir dire Al-Qur'an, et une fois, il va vouloir dire l'ensemble des livres. Donc maintenant, on a vu en fait deux exemples par rapport au terme Al-Kitab, avec l'alif ou al-lim, al-lam, Al-Kitab, Allah, Allah Azzawajal, dans deux versets dont le shir va nous donner les exemples, hein, Allah Azzawajal va faire apparaître en fait ces deux termes, et que chaque terme va revenir à ce qu'on comprend de lui. Le premier verset, c'est Surat An-Nisa, et c'est le verset 136. Surat An-Nisa, et c'est le verset 136. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Donc on voit en fait ici dans le verset, il y a deux fois le kitab, dont Allah عز وجل cite الكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. C'est-à-dire, Ya ayyuha alladhina amanu, vous les croyants, croyez en quoi? En Allah et son messager. Wal kitab alladhi nazzala ala rasulih. C'est-à-dire le livre que nous avons fait descendre sur, le livre qui a été descendu sur son prophète. Et bien sûr, le prophète ici, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc son livre, c'est quoi? Le premier wal kitab, c'est bien sûr Al-Qur'an. Al-alif wal lam lil'ahdi dhihni. Donc c'est Al-Kitab, ici la compréhension que l'on a, c'est bien sûr le Coran. Et ensuite, Wal-Kitab illadhi anzala min qabl. Et donc maintenant la deuxième, ou le deuxième livre ici, Wal-Kitab, c'est Al-Maqsoud Jins Al-Kitab. Ay Jami' al-Kutub al-Munazzala min indillahi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout l'ensemble des livres. La deuxième qui nous donne le shir, c'est fi Surat Al-Ma'ida. Surat Al-Ma'ida, c'est le verset 48. Surat Al-Ma'ida, c'est le verset 48. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Surat Al-Ma'ida 48. Et sur toi, Muhammad, c'est-à-dire وأنزلنا إليك, c'est-à-dire le maqsoud Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Donc bien sûr, quel est le livre qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Al-Qur'an. Donc on voit ici en fait, lorsqu'on dit le terme Al-Ahd al-Dhihni, on voit bien ici que c'est par compréhension. On comprend de tout à fait, de façon claire d'après ce verset-là, que le maqsoud bil-kitab ici, c'est Al-Qur'an. Bil-haqqi, musaddiqa lima bayna yadayhi min al-kitab. C'est-à-dire, pour confirmer le livre qui était avant. Et donc, le deuxième ici, Al-Kitab, le deuxième terme qui est employé, c'est pour dire en fait aussi l'ensemble des livres. Tous les livres qui sont descendus avant le Coran, en fait, il les confirme. Et on avait vu le terme, qu'est-ce que vous voulez dire, Musaddiqan, et on avait vu aussi le terme, qu'est-ce que vous voulez dire, Wa Muhayminan Alay, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Donc, bien sûr, au niveau de la traduction, lorsque vous lisez le Coran en traduction, vous allez voir que c'est singulier. Mais il faut comprendre ici que Al-Maqsoud et la signification, c'est l'ensemble de tous les livres. C'est l'ensemble de tous les livres avec le alif ou al-lam qui est bien sûr annexé au terme kitab. Ensuite, yaqul shir rahimullah wa ja'a fil Qur'an kathiran dhikru al-kitab muradan bihi at-Tawrah. Donc il reprend encore cette expression que l'on a expliquée. C'est-à-dire que dans plusieurs passages du Coran, il nous explique le shir que Al-Murad Al-Kitab, donc bien sûr avec l'Alif Wallam, on veut par là At-Torah, c'est-à-dire la Torah qui est descendue sur qui? Bien sûr sur Moussa, qui est descendue sur Moussa, qui est descendue pour les Juifs. Et donc, à partir de là, le shir va nous donner des exemples. Il nous dit فَفِي الْبَقَرَةِ فِي مَوْدِعَيْنِ, c'est-à-dire فِي سُرَةِ الْبَقَرَةِ, dans deux endroits. فِي الْأَنْعَامِ, فِي سُرَةِ الْأَنْعَامِ, les bestiaux, dans deux endroits aussi, فِي مَوْدِعَيْنِ. وَفِي هُود, كذلك dans سُرَةِ هُود, وَالْإِسْرَى, وَالْمُؤْمِنُونَ, les croyants, وَالْفُرْقَانِ, وَالْقَصَصِ. وَكَذَلِكَ سَجْدَةٌ وَالصَّافَّاتُ وَفُصِّلَتْ وَغَيْرِ ذَلِكَ. C'est-à-dire, dans beaucoup de versets, le maqsoud bi al-kitab, c'est al-Torah. Comment on va le comprendre? Comme on a dit, en revenant en fait à la compréhension du verset en lui-même, et en regardant comment le verset est exposé, dans quel contexte il a été placé ce terme al-kitab. Le shir, il ne nous a pas donné des exemples en fait, à partir de là. Simplement, on va en donner, on va donner un exemple. On va donner un exemple, wa huwa fi surat al-Baqarah. يقول الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Et ça c'est le verset 44. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, êtes-vous donc dépourvus de raison? Ici, al-maqsoud bi al-kitab et ce qui va venir avant et ce qui va venir après dans les versets, et lorsque Allah Azza wa Jalla emploie le terme al-kitab, c'est bien sûr la Torah. Pourquoi? Parce que le verset qu'on regarde un peu avant, on remonte un peu avant les versets, on voit que Allah Azza wa Jalla parle de qui? De Bani Israël, et il parle aussi de Moussa alayhi salam. Donc à partir de là, on comprend que le livre, ici al-maqsoud, c'est Torah, c'est Torah. Donc voilà en fait les exemples que nous a donné le shir. Ensuite le shir, rahimallahu ta'ala, hafidhallahu wa rahimallahu kadhalik, nam. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit wa ja'a fil Qur'an dhikru al alif wal lam fil kalimati muradan biha al ahd al dhikri. Donc maintenant le alif et le lam, lorsqu'il va être annexé à un mot, il va vouloir dire en fait autre chose ici. C'est-à-dire qu'on va comprendre quel est ce mot-là, c'est-à-dire que le mot va être défini, qu'on dit bien sur le alif ou al-lam, al-mu'arraf, c'est-à-dire qu'il va être, à partir du moment où on met le alif ou al-lam devant le terme, bien sûr, ça veut dire qu'à partir de là, il devient défini avant qu'il ait été défini. Si par exemple je dis roulamoun, roulamoun, je crois que ça c'est une règle qui est connue de tout le monde, inshallah. Lorsque je dis roulamoun, ça c'est indéfini, je ne sais pas quel est le jeune homme à qui je fais allusion. Et lorsque je dis el-roulamou, c'est-à-dire le jeune homme. Lorsque je dis roulamoun, un jeune homme. Et lorsque je dis el-roulamou, c'est-à-dire le jeune homme. El-roulamou, le jeune homme. Avec alif ou al-lam, le jeune homme. Donc, je veux dire quelqu'un bien précis. Je parle d'une personne bien précise. Comment on va le savoir, ça? Comment on va savoir quelle est la personne dont je parle? À partir de là, comme il avait dit le shir, la première catégorie, c'est de le savoir, en fait, par compréhension. C'est-à-dire comme dans les versets qu'on a vus par rapport au terme Al-Kitab, on a compris que c'était Al-Murad, soit le Coran, ou soit Torah, ou soit l'ensemble des livres. Taïb. Maintenant, pour ce qui est de cette catégorie dont on va nous parler maintenant le shir, qui s'appelle Al-Ahd Zikri, un rappel. C'est-à-dire lorsqu'on dit le terme Zikri, c'est-à-dire que ce terme-là, Al-Roulam, à l'exemple du Roulam, on va voir l'exemple, c'est-à-dire que ce terme-là, ce mot-là, il a été déjà cité auparavant. Donc on sait en fait que par le terme, à l'exemple d'ici al-Roulam, c'est le jeune homme que j'ai voulu, ou dont je fais allusion, et dont j'ai cité auparavant. C'est-à-dire, durant ma parole, j'ai parlé de quelqu'un. Taïb. Cette personne-là, après, quand je parle d'elle, je dis al-Roulam. Et je veux dire par là celui qui était cité auparavant. Donc c'est un rappel en fait. Je rappelle quelle est la personne, et je mets l'alif wal-lam pour dire en fait que c'est cette personne dont je suis en train de parler, que j'ai parlé précédemment. Et c'est pour ça que le shir, par rapport à ça, pour nous donner l'exemple, il nous donne en fait l'exemple de la surat la caverne, le kaf, et qui est le verset 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَأَمَّا الْغُلَامُ, c'est-à-dire, pour ce qui est du jeune homme, فَكَانَ أَبَوَاهُ, c'est-à-dire ses deux parents, c'est son père et sa mère, ses deux parents étaient des croyants. Donc le terme al-roulam, c'est avec l'alif ou al-lam. Comment on va savoir qu'Allah, de qui Allah Azzawajal, à travers ce verset du Coran, il parle? Donc à partir de là, on va revenir en arrière, on va faire donc un rappel, et on va voir que le verset qu'il y a un peu avant, c'est hatta idha laqiya roulaman faqatala, hatta idha laqiya roulaman faqatala, c'est-à-dire que ce verset-là, حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ, c'est fait surat al-Kaf, c'est-à-dire jusqu'à qu'il ait rencontré, un jeune enfant et il le tue. Ce verset-là, il a été cité en fait avant, il a été cité au verset 74. Alors que وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, il a été cité au verset 80. Donc on s'aperçoit en fait que, qu'est-ce qui va se passer ici? On va revenir au verset précédent pour savoir quel est en fait al-maqsoud bil-roulam. Et le roulam en fait, c'est-à-dire celui qui a été tué. Taïb. Par contre, maintenant, par rapport au deuxième exemple qu'il nous a donné le shir, wa amma al-jidar fa kana li-roulamayn yatimayn. Il va nous donner en fait l'explication. Il va revenir donc au verset qui est avant, وَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَبَّ. Ensuite, ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler. On comprend ainsi ici que le terme al-jidaru, avec l'alif wal-lam dans le verset, avec l'alif wal-lam, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامًا يَتِيمًا. Et ensuite, فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَبَّ. Jidar. Jidar ici, il est bien sûr indéfini. Alors que d'après, dans le deuxième verset, ou le verset qui a suivi, il est bien sûr défini. Donc on comprend ici que c'est al-ahd al-dhikri. C'est-à-dire qu'on va se rappeler, on va savoir la définition, ou qu'est-ce qui est voulu par ce terme qui était précédé par l'alif wal-lam, qui était annexé à l'alif wal-lam en revenant au verset d'avant, et donc en faisant un rappel. En faisant en fait un rappel. C'est pour ça qu'on appelle al-ahd al-dhikri. Un autre exemple qui nous donne le shirk, un exemple qui est simple. Fa'asa fir'aoun al-rasoul. Fa'asa fir'aoun al-rasoul. C'est-à-dire, Pharaon a désobéi au prophète, al-rasoul, avec l'alif wal-lam ici. Al-rasoul. Taïd, quel est le maqsoud bi al-rasoul? On va revenir un peu en arrière, justement, juste au verset d'avant. يقول الله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا المقصود بالرسول هو موسى موسى lorsqu'on voit فعصى فرعون الرسول on voit en fait que l'alif wa lam de al-rasul va être défini par rapport à la citation qui est auparavant, c'est-à-dire qu'on a cité le terme indéfini un peu avant. En continuant par rapport à cette règle là le cheikh va nous donner maintenant un autre exemple. Il va nous donner un irtilaf, c'est-à-dire une divergence des savants par rapport en fait à un verset du Coran. Par rapport à un verset du Coran. Et donc on va l'expliquer, ça nous permettra en fait de comprendre ici, de façon encore plus précise, quelle est cette règle qui est appuyée. C'est-à-dire une règle qui est en relation avec le alif wal-lam. Avec le alif wal-lam. Donc on voit en fait que le alif wal-lam, lorsque le terme devient défini, il est précédé par le alif wal-lam. Il est défini, comment on va savoir quel est le maqsoud, c'est-à-dire ce qui est voulu par ce terme-là, on va soit le savoir par compréhension, ou soit on va le savoir en revenant en fait au texte un peu avant. C'est aussi par rapport à la parole, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, lorsqu'il parle d'une personne comme à l'exemple Al-Roulam, ou lorsqu'il parle du Al-Jidar par rapport au mur, on va savoir en fait que le mur ou que le jeune homme qui est concerné ici, c'est celui que la personne a cité auparavant. Au début de sa parole en fait. Donc ça c'est important à comprendre et on va savoir ici, on va comprendre ici une des règles, on va l'appliquer en fait par rapport à savoir quelle est en fait la parole la plus forte ou la vie la plus forte par rapport à un verset du Coran. Tayyib, yaqul Allah azza wa jalla fi kitabi, et c'est l'exemple que nous donne le shir. Fa'idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulu al-mushrikin haythu wajadtumuhum. C'est Fi Surat al-Tawba, et c'est le verset numéro 5. Fi Surat al-Tawba, c'est le verset numéro 5. La tarjama, c'est-à-dire le sens du verset, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Fa'idhan salakha al-ashhurul hurum, faqtulu al-mushrikin haythu wajadtumuhum. C'est-à-dire, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Quel est maintenant le maqsoud, quelle est la signification du terme al-ashhurul hurum? On voit ici que lorsqu'on dit les mois sacrés, al-ashhurul hurum, on voit que le terme al-ashhur, qui est bien sûr le pluriel de char et qui est donc les mois, ou al-hurum, qui veut dire bien sûr al-hurum, qui veut dire sacré, qui a un caractère sacré, on voit qu'il est précédé le terme ici par le alif wal-lam, sauf sur la Tawba, le verset 5. Al-ashhurul hurum, par le alif wal-lam, al-ashhurul hurum. Donc quelle est ici maintenant la signification? Qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azzawajal par le terme al-ashhurul hurum? Il y a en fait à partir de là, irtilaf des savants. Il va y avoir en fait une divergence par rapport aux savants. Et là, en fait, on va voir qu'on va appliquer la règle pour savoir quelle est la parole, en fait, ou la vie, on va dire le plus sûr, ou le plus fort. Yaqul al-shaykh mubasharatan, c'est-à-dire qu'il va donner la vie, il va donner son avis directement au shaykh. Yaqul fa inna raji'un ila al-arba'a fi qawlihi fasihu fil ardi arba'at ashhur. Ça, c'est le verset qui se trouve fi Tawba, et c'est le verset numéro 2. Donc, trois versets juste avant. Fasihu fil ardi arba'at ashhur. C'est-à-dire parcourir la terre durant quatre mois. parcourir la terre durant 4 mois. Il faut savoir en fait que entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins, les associateurs, il y a en fait une trêve. Il y a une trêve de 4 mois. Et durant ces 4 mois, c'est ce qu'on appelait en fait al-ashur al-tasir wal-imhal les mouchriquins. C'est-à-dire durant ce temps-là, les associateurs, ils ont été en fait en paix par rapport à la communauté musulmane ou par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de qital, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre entre eux durant bien sûr ces quatre mois. Et c'est fait en fait un acte qu'il y a eu. C'est l'acte donc qu'il y a eu. Donc l'irtilaf ici, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, c'est-à-dire après que les mois sacrés expirent, est-ce que le mourad ici, c'est les 4 mois sacrés que l'on connaît et qui sont en fait cités dans le verset suivant, مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Vous savez qu'Allah Azzawajal, il a créé 12 mois et que parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Il y en a 4 mois qui sont sacrés. Et ces mois-là, comme vous le savez tous, c'est Dhul-Qi'ada, Dhul-Hijja, Al-Muharram wa Rajab. Donc ça, c'est les 4 mois qui sont connus au niveau de l'islam, de la religion de l'islam, et qui sont considérés comme sacrés. Dhul-Qi'ada, Dhul-Hijja, Al-Muharram wa Rajab. Ça, c'est les 4 mois. Taïb. Maintenant, l'irtilaf des savants. Est-ce que les 4 mois ici, qui sont cités, dans فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, est-ce qu'ils reviennent en fait au verset qui se trouve un peu avant, c'est-à-dire parcourez فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, c'est-à-dire parcourez la terre durant 4 mois. Parcourez la terre durant 4 mois. Et ces 4 mois-là ne sont pas les mêmes 4 mois sacrés. Ces 4 mois-là, il faut savoir qu'ils ne sont pas les mêmes 4 mois sacrés. Ces 4 mois en fait qu'il y a eu entre les musulmans et entre les mouchriquins de paix en fait, c'est-à-dire ces 4 mois-là, et qui sont en fait des mois qui sont différents des 4 mois sacrés. Même si ça tombe, un des mois va tomber bien sûr durant le mois sacré. À la Kulihal, ce ne sont pas les 4 mois. Donc on voit qu'il y a une différence entre le verset Minha Arbaatun Hurum, Dalika Dinul Qayyim, ça c'est les 4 mois qui sont connus et qui sont constants et qui sont considérés comme sacrés au niveau de la religion musulmane. Par contre, dans le verset Fasihu fil Arbi Arbaat Ashur, c'est-à-dire parcourir la terre durant 4 mois, ces 4 mois, ce sont les 4 mois bien précis qu'il y a eu du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là entre les mouchriquins et entre les musulmans. Donc, certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'en fait, dans le verset فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, verset qui se trouve après, fi surat Tawba, verset 5, ils ont dit que al-maqsoud ici, c'est les 4 mois sacrés que l'on connaît, مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومِ. Et ça, c'est l'avis de Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin. Ibn Jarir al-Tabari, comme vous savez, son tafsir al-Tabari, ça c'est l'avis en fait de Ibn Jarir. Lui voit en fait que Ibn Jarir, ces 4 mois-là, فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, c'est-à-dire qu'après que les mois sacrés sont expirés, il dit que ce sont les 4 mois en fait sacrés que l'on connaît et qui sont constants au niveau de la religion, musulmane. Et le Shir, lui, il a vu, et c'est en fait l'avis aussi de Ibn Kathir, c'est l'avis de Ibn Kathir. Il dit aussi que c'est l'avis d'Ibn Abbas fi riwayatin fi riwayat al-Awfi anhu wa kadhalik qala Mujahid wa Amr ibn Shu'aib wa Muhammad ibn Ishaq wa Qatada wa Suddi, et d'autres savants que le Shir va citer. Lui il voit en fait le Shir, et donc ça c'est l'avis des savants qu'il a cité, les 4 mois, ce sont les 4 mois qui sont simplement cités un peu avant dans le verset. Et maintenant il va appliquer donc la règle, لأن عود العهد على المفكور أولى من مقدر. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout simplement, il veut dire que le fait que l'on va, on a vu ici que c'est al-ashurul hurum, al-alif wal-lam, le fait qu'on les fasse revenir aux 4 mois qui sont cités juste un peu avant dans le verset, et qui sont donc dans le verset fasihu fil ardi arba'at ashur. On voit ici que arba'at ashurin, c'est indéfini. Donc, après qu'il est indéfini, il va être cité défini. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُومِ, et que ça, c'était en fait un rappel, c'était en fait cité un peu auparavant dans la sourate. Eux, ils voient le shir. En appliquant donc cette règle, eux, al-maqsoud, c'est donc ces 4 mois. Ces 4 mois-là qu'il y a eu entre les de paix, où il n'y a pas eu de combat entre les al-mushrik, al-mushrikin, les associateurs et les musulmans. Et bien sûr, à titre d'information, vous savez que les 4 mois les quatre mois sacrés, donc, comme on l'a dit, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharram ou Rajab, les savants, en fait, disent que durant ces quatre mois, le péché est encore plus important que dans les autres mois. Wa'arvam. Le péché, c'est une chose qui est comptée contre nous, bien sûr, qui est comptée contre nous. Mais durant ces quatre mois, il est encore plus important. Et ça, en fait, ça revient par rapport aux amens. Comme vous savez que aussi le péché, par rapport à Nisbatil Makan, c'est-à-dire par rapport au lieu, lorsqu'on fait un péché dans le haram, il est plus important qu'un péché qu'on va faire en dehors du haram. Par rapport ici, c'est le temps. C'est-à-dire, des péchés qu'on va faire durant ces quatre mois vont être plus importants que les péchés qu'on va faire en dehors de ces quatre mois. Qu'on va faire en dehors de ces quatre mois. Tout simplement parce que ces quatre mois ont un caractère sacré. Ensuite, يقول الله عز وجل هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, c'est-à-dire une guidance. C'est une guidance pour les pieux. يقول الشيخ رحمه الله المتقون هم الملازم لتقوى الله والتقوى في اللغة من الوقاية وهي أن تجعل بينك وبين الذي تخاف وقاية تقيك منه كما يتقي الإنسان الشمس باتخاذ ما يظل من حرها والبرد وبلبس الألبسة الثقيلة. Et ensuite le chien nous dit « وَأَمَّا فِي الشَّرَ فَتَقْوَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ وِقَايَةً تَقِي مِنْهُ وَذَلِكَ بِامْتِثَالِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَابَ الْمَنْهِيَاتِ فَالْمَعْنَى اللُّغَوِي أَعَمْ. طيب. Le chien en fait il va nous expliquer tout simplement au niveau, il va nous donner l'explication du terme « taqwa ». Pourquoi ? Parce qu'ici on a « هُدًى لِلْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقُونَ » comme il nous dit, c'est ceux en fait qui ont constamment la crainte d'Allah. Donc on voit en fait au niveau du terme français qu'on traduit le terme at-taqwa par la crainte. On va voir en fait que c'est bien sûr plus précis que ça. Bien sûr, comme on dit, traduire c'est trahir. Traduire c'est trahir. Il va nous expliquer ici le cher quel est le terme ou quelle est la signification du terme at-taqwa. A partir de là, donc il nous traduit at-taqwa qui est présent dans le terme al-muttaqun. Ça c'est l'asl. At-taqwa fil lora min al-wiqaya. Il nous dit en fait que dans la langue arabe, at-taqwa ça veut dire al-wiqaya. Al-wiqaya, al-wiqaya. Et ce terme-là, ça veut dire la protection. Al-wiqaya, c'est la protection. Et c'est ma'na al-taqwa fil-lura, c'est-à-dire dans la langue arabe. Et ensuite, le shir, il nous dit, pour nous expliquer ce terme, il nous dit, c'est le fait que tu mettes entre toi et une chose dont tu as peur, une protection. Il nous a donné l'exemple de la personne qui se protège du soleil. Lorsqu'il se protège du soleil, il va tout simplement prendre par exemple un parapluie, le parapluie de soleil, ou autre chose, qu'il va mettre entre sa tête et les rayons du soleil, c'est-à-dire entre lui et le soleil. Donc ici, il a pris quelque chose qui est donc le parapluie, pour se protéger de quoi ? Pour se protéger du soleil. Ça, en fait, c'est au niveau de la langue arabe, taqwa, et c'est donc il y a mis entre lui et cela, wiqaya, ce qu'on appelle wiqaya, une protection, et qu'ici, dans notre exemple, le parapluie. Il nous a donné aussi l'exemple du le fait de mettre des habits qui sont chauds. Pour se protéger de quoi ? Pour se protéger du froid. Donc les habits chauds, c'est al-wiqaya, c'est une protection. Donc on va se protéger de par ces habits, quoi ? On va se protéger, bien sûr, du froid. Donc c'est les exemples que le shir nous donne. Et ensuite il nous dit, amma fi shar. Ça c'est la signification au niveau de la langue arabe. Maintenant il va nous donner la signification au niveau de quoi ? Au niveau, bien sûr, de la législation. Au niveau de la législation. Il nous dit فَتَّقْوَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنْهُ. La définition, c'est que le serviteur, il place entre lui et quoi ? Et la colère d'Allah. بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَضَبِ اللَّهِ. Entre lui et la colère d'Allah, une protection qui va le protéger. Il va se protéger de par cette protection, de quoi ? De la colère d'Allah. أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية تقي منه. Et comment cela ? وذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. C'est-à-dire en accomplissant ce qui est ordonné et en s'éloignant de ce qui est interdit. Ça c'est معنى التقوى في الشرع. C'est au niveau de la législation. Que le serviteur mette entre lui et la colère d'Allah une protection. Et cette protection-là, وَذَلِكَ بِمْتِفَى الْمَأْمُورَاتِ, c'est-à-dire cette protection-là, c'est faire ce qui est obligatoire, accomplir ce qui nous est ordonné, et s'éloigner de tout ce qui nous est interdit, des interdictions, de tout ce qui est prohibé. Ensuite, le chéri nous dit que, et ça c'est une règle de façon générale, on a vu qu'on a donné la définition au niveau de la langue arabe, et ensuite on a donné la définition au niveau de quoi? Au niveau de la législation. Il faut savoir qu'une définition d'un terme qui est employé dans la, au niveau religieux, c'est au niveau de la législation, il est en principe restreint, plus restreint ou plus spécifique que la signification qui est donnée dans la langue arabe. C'est pour ça qu'il nous dit falmarna tati falmarna lorawi huna am. C'est-à-dire, la signification du terme ici est taqwa au niveau de la langue est plus générale que la signification au niveau de la législation. Tout simplement parce que ça rentre dans une spécificité. C'est plus spécifique. C'est pour ça qu'il nous dit walmarna shar'i juz'un min juz'iyat almarna lorawi. وكثيرا من تأتي المعاني الشرعية أجزاء من المعاني اللغوية مثل الصوم. Il va nous donner maintenant des exemples. C'est-à-dire qu'il nous dit le shirk que tout, pratiquement, dans la plupart des cas, la signification législative ou la signification au niveau de la religion va être une des parties de la signification de quoi? De la langue, au niveau de la langue. Taïeb, ça c'est de façon générale. Donc, la signification religieuse ou législative est une partie de quoi? De la signification littérale, c'est-à-dire au niveau de la langue arabe. Il nous donne un exemple, cher. Il nous donne as-sawm. Vous savez tout ce que veut dire le terme as-sawm, yani as-siyam, c'est-à-dire le jeûne. Yaqul fa'inna yutlaq fil lughati ala kulli imsakin. C'est-à-dire qu'on veut dire par ce terme-là au niveau de la langue arabe quoi? Kulu imsakin, c'est-à-dire toute abstention. C'est-à-dire même le fait de s'abstenir de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on s'abstient de façon générale de tout, on appelle ça as-sawm. On appelle ça en fait le jeûne. Le jeûne. يقول ويطلق في الشرع على إمساك مخصوص هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Donc il nous dit le shir ici que maintenant au niveau de la législation, bien sûr, il a une signification qui est plus restreinte. Et c'est en fait le fait de s'abstenir ici, l'abstention va être plus spécifique. L'abstention c'est quoi? S'abstenir en fait de boire et de manger, c'est-à-dire qu'il y a des boissons, des nourritures et de tout ce qui fait rompre le jeûne à partir du commencement de l'aube, min tulu' al-fajr, au moment où l'aube se lève, du lever de l'aube, jusqu'à que le soleil se couche, la ghurub al-sham, jusqu'au coucher du soleil. Ça on l'a vu dans les cours aussi de Siyam, on a expliqué cette définition de façon précise. À partir de là, on voit donc que l'imsak, c'est l'abstention de quelque chose qui va être précis. Alors qu'au niveau de la langue arabe, littérale, c'est l'abstention de tout, de façon générale. Donc ici, c'est plus spécifique. Et c'est en fait une des parties de la signification de la langue. Il nous dit aussi l'exemple du al-hajj. Al-hajj, vous savez ce que ça veut dire al-hajj? Lorsqu'on dit al-hajj au niveau de la langue arabe, ça veut dire al-qasd. C'est-à-dire la détermination que l'on a lorsqu'on veut faire quelque chose. C'est ça, al-qasd. Je suis déterminé, j'ai l'intention de faire quelque chose, ça c'est al-qasd. C'est marna al-hajj. C'est marna al-hajj. Donc au niveau de la langue arabe, lorsqu'on dit al-hajj, c'est al-qasd. Taïb, al-hajj ou al-qasd. Taïb. Au niveau maintenant de la législation, au niveau du shar, il nous dit c'est qasd al-bayt al-atiq wa al-tawaf bihi wa al-itian bi sha'air mu'ayyana. C'est-à-dire, au niveau de la langue arabe, maintenant, au niveau afin de la législation, c'est donc à déterminer, ou à déterminer à aller où? À aller donc à la maison sacrée, et de tourner autour d'elle, et de faire tous les rites qui sont précis. Qui sont précis, bien sûr, à quoi? Au pèlerinage. Donc ça, on voit que c'est en fait la détermination qu'on a. Elle est plus précise que la détermination au niveau de la langue arabe et qui va être plus générale, c'est-à-dire la détermination de toute chose. Et ensuite, le troisième exemple, mithl al-umra. Lorsqu'on dit al-umra, vous savez ce que ça veut dire au niveau de la langue arabe? Al-umra, al-umra c'est al-ziyara. Al-umra, au niveau de la langue, c'est al-ziyara. C'est-à-dire la visite. Al-umra, au niveau de la langue, ça veut tout simplement dire al-ziyara, la visite. Et au niveau de la législation, c'est ziyaratul bayt al-atiq al-tawafi bihi wa sa'i bayna al-safa wal-marwa. Au niveau de la législation, ça va être donc une des parties de la signification en langue arabe, et bien sûr, bien plus spécifique qu'elle, et c'est en fait la visite de la maison sacrée, bien sûr, pour tourner autour d'elle, à Tawaf, et ensuite faire Sa'i, c'est-à-dire faire le parcours entre les deux montagnes que vous connaissez, à Safa ou à Al-Marwa. Donc on voit les exemples ici qui nous sont donnés. Donc on voit que le terme, lorsqu'il est employé au niveau de la langue arabe, il est plus général que le terme lorsqu'il est employé au niveau de la législation. Le même terme employé au niveau de la législation. Et ça, on va dire que c'est en fait c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Shara, la législation musulmane, a pris en fait les termes de la langue arabe. A pris les termes de la langue arabe. Pourquoi ? Parce que le Coran est descendu en langue arabe et que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un arabe et qu'il parlait en langue arabe. Donc à partir de là, les termes qui vont être pris et qui vont avoir une utilisation législative viennent d'où ? Viennent de la langue arabe. Donc c'était logique que dans la langue arabe, le terme sera plus général que son utilisation dans quoi ? Dans la législation, dans la religion. Non. Et il nous dit le shir au niveau de la taqwa. Il va parler au niveau de la taqwa. Il dit le shir « wa taqwa Allah » وصية للأولين والآخرين قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ça c'est في سورة النساء, c'est le verset 131. C'est le verset 131. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Donc ça en fait c'est al-wasiya, c'est la recommandation qu'Allah Azza wa Jal a fait à cette communauté comme il a fait aux communautés précédentes. Donc c'est la wasiya, c'est la recommandation d'Allah Azza wa Jal. Quoi ? La crainte, de craindre Allah Azza wa Jal. Ça c'est sa recommandation, que ce soit au premier et au dernier, ceux qui nous ont précédés et ceux qui viendront. Il nous dit le shir, « وَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ تَقْوَاهُ خَيْرُ الزَّادِ فَقَالَ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal ? Ça c'est fait surat al-Baqara. C'est le verset 197. Il nous dit, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Mais vraiment la meilleure provision est la piété. Donc au niveau de la langue arabe, Zad, ce qu'on appelle en fait la provision. Et il nous dit Allah Azza wa Jal, wa tazawwadu, c'est-à-dire prenez vos provisions. Fa'inna khayra zad al-taqwa, c'est-à-dire mais vraiment la meilleure provision, en nous rappelant que la meilleure provision c'est quoi ? C'est la piété. Donc Zad c'est la provision. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَرَتَّبَ كُلَّ خَيْرٍ وَسَعَادَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ الْأَنفَالَ. Il nous a donné donc un premier verset, et ce verset-là, Wattaqullah, craignez Allah, et Allah Azzawajal vous enseignera. Et dans le deuxième verset, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. C'est bien sûr le discernement. Wa yaj'al lakum furqana. Wal furqan, c'est le discernement. C'est-à-dire, discerner entre le bien et le mal. Ça fait partie en fait des fruits de la taqwa. Parmi ces fruits-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal, comme il nous est cité ici, il va nous donner en fait le discernement. C'est-à-dire que la personne pourra discerner entre le bien et le mal, de par sa piété en Allah Azza wa Jal, la piété qu'il a, la crainte qu'il a d'Allah Azza wa Jal. Et également, wa yukaffir ankum sayyatikum, il va absoudre en fait nos péchés et nous pardonner. Wa yaghfir lakum, et nous pardonner. Tout ça grâce à la taqwa, grâce à la crainte d'Allah. Wa yaqul Allah Azza wa Jal, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ça aussi c'est important. C'est que celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, comme il nous dit ici, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. C'est-à-dire celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jal va lui donner une issue qui est favorable. Une issue qui est favorable. Makhraja. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. C'est-à-dire que la personne qui craint Allah, Allah Azza wa Jal, il va lui donner son risque. Il va lui donner son risque, et ce risque-là, il va venir d'une porte qu'il ne s'attendait même pas. Ça, en fait, c'est un des fruits de la taqwa, c'est un des fruits de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tout le verset précédent, celui, c'est sur la talaq. Le 2, le 3, le 4. Allah Azza wa Jal nous donne tous les fruits ici de la taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, Allah il va lui faciliter les choses. قَالَ وَقَالَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Ça c'est fait. Surat aussi à Talaq. Quiconque craint Allah cependant lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Il va lui accorder une grande récompense. Donc tout ça en fait, ce sont les fruits que nous a fait apparaître ici le shir à travers les versets qu'il nous a cités par rapport à la crainte d'Allah, At-Taqwa. Ensuite, yaqul le shir, en expliquant donc la suite du verset, Alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ça c'est les muttaqin. C'est ceux qui ont la crainte d'Allah. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux donc, ceux qui croient à l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible. Qui croient en l'invisible. Al-ghaib. Et ça, le cheikh va nous insister sur ce terme, al-ghaib. Al-ghaib qui est l'invisible. Il va nous dire, va nous expliquer pourquoi en fait, que Allah Azzawajal a donné un attribut le plus important pour les croyants, c'est qu'ils croient en fait en quoi ? En l'invisible. C'est-à-dire personne ne pourra rentrer réellement dans cette religion que s'il croit dans l'invisible. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ça c'est le premier sifa, c'est le premier en fait attribut que la personne doit avoir, c'est-à-dire croire à l'invisible. Croire en l'invisible. C'est pour ça qu'il y a pour le shir. Ja'alahu Allahu awwal sifat al-muttaqin allati dhakaraha fi qawlihi ta'ala. Et ensuite, même si on nous a cité le verset, hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Donc croire en l'invisible, c'est le commencement et le début. Qu'est-ce que l'invisible ? Yaqul al-shir al-ghaib fi al-lughati kullu ma ghaba 'an al-insan. Kullu ma ghaba 'an al-insan. C'est tout ce qui est absent de façon générale. Al-ghaib au niveau de la langue arabe, c'est tout ce qui est absent de la personne. Tout ce que la personne, en fait, tout ce qui est absent de la personne, c'est ce qu'on appelle al-ghaib. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ghaib. Et au niveau du shar', qu'est-ce que veut dire en fait al-ghaib ? Yaqul wa fi shar'i kullu ma ghaba 'an al-insan mimma la yu'raf illa bil wahy. Donc on voit en fait encore que le terme ici va être plus spécifique parce qu'il est employé à une fin législative. Yaqul wa fi shar'i kullu ma ghaba 'an al-insan mimma la yu'raf illa bil wahy. Au niveau de la législation, al-ghaib, l'invisible, c'est tout ce qui est absent de la personne et qui ne peut connaître que par la révélation. Et qui ne peut connaître que par la révélation. Tout ce que la personne, en fait, ne peut savoir, sauf par la révélation, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, et qui est absent, bien sûr, de lui, qui est absent de lui, qui est invisible de lui, qui est absent, qui est invisible de lui, ça, en fait, ça fait partie de quoi ? Al-Ghaib, ça fait partie du Ghaib, ça fait partie de... Et c'est le Ghaib, c'est en fait l'invisible. Ce qu'on traduit bien sûr par l'invisible, Al-Ghaib. Il va nous donner beaucoup d'exemples, le shirk. Il nous donne l'exemple en fait comme le début de la création. Le début de la création, on l'a connu à travers le Coran, on l'a connu à travers la sunna du prophète. Si le prophète, et si Allah et son messager ne nous avaient pas avertis, ne nous avaient pas informé comment la création avait débuté, on aurait pu le savoir. Donc c'est quelque chose qu'on a su... qui nous était invisible, que l'on a su grâce à quoi ? Grâce à l'Wahi, qu'on a su en fait par rapport à la révélation. Il nous dit également par rapport à ce qui est arrivé aux autres communautés dans le passé, ça aussi ça rentre fil raib, et ce qui va arriver aussi dans le futur, comme par exemple la sortie de Ya'juj ou Ma'juj, comme la sortie de la grosse, de la bête, et comme aussi la sortie du Al-Masih Ad-Dajjal, lorsque le Masih Ad-Dajjal, lorsque l'Antéchrist il va sortir, tout ça, ça fait partie des choses qui font partie du Raïb et que l'on a en fait connu par information que par quoi ? Que par la révélation. Et tout ce qui arrive aussi dans l'Al-Qubur, c'est-à-dire dans les tombes, que ce soit de son supplice ou que ce soit de son châtiment, de son supplice ou de son délit, Sarfwan, ça aussi, toutes ces choses-là, comment on aurait pu le savoir si on l'aurait pas su par la révélation. Ce qui arrive aussi après, bien sûr, après la mort, comme la résurrection, comme le regroupement, al-hash ou al-hisab, les comptes, wazn al-a'mal, le fait de peser les actions, was-sirat, la passerelle, qui se trouvera au-dessus de l'enfer, wal-jannah, wal-nar, c'est-à-dire le paradis et l'enfer, tout ceci, ça fait partie du raïb, et on a pu le connaître que grâce à ce qu'Allah Azzawajal nous a informé dans son livre, ou par la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit l'exemple al-malaika wal-jin. Bel, il nous dit le shir wa min al-iman bil-ghaib al-iman bi usul al-iman sitta al-mubayyana fi hadith Jibril al-mashhur wa ya al-iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawm al-akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. Il nous dit parmi les bases même du raïb, parmi les bases de l'invisible, la foi, ou les six bases, ou les six piliers de la foi, qui ont été mis en évidence dans le hadith que vous connaissez tous, et qui est le hadith de Jibril. Et ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par l'ange Gabriel, et lorsqu'il lui a dit à Jibril, lorsqu'il lui a dit bien sûr, c'est-à-dire qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que la foi, il lui a dit donc la foi et que tu crois en Allah Azzawajal, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés au jour dernier et à la prédestination, qu'elle soit dans le bien ou dans le mal. Donc à partir de là il nous a dit que ça fait partie des piliers, ça fait partie en fait l'iman bil ghaib, l'iman bil usul al-iman, c'est-à-dire as-sitta, c'est-à-dire que la foi dans l'invisible, c'est la foi dans ces choses-là. C'est croire en Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, personne n'a vu Allah. Pourtant, on y croit. On croit en Allah Azzawajal. Donc, c'est croire en l'invisible. Par rapport au Al-Malaïka, également, personne n'a vu en fait d'ange, mais on croit aux anges. Par rapport à l'information qui nous a été donnée du prophète, par rapport aux informations qui nous a été données dans le livre, que ce soit Kutubihi, que ce soit les livres, ou Rusul, c'est-à-dire tous les envoyés, ceux d'avant, jusqu'au dernier Khatam al-Nabiyyin, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des envoyés. Wal-yawm al-akhir. Et il nous dit par rapport à ça, il nous dit le shir, فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِ وَأَفْعَالِ وَمَعْرِفَةِ عِبَادَتِهِ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفْ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. C'est-à-dire, il nous dit que la foi dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah, dans les actes d'Allah, et la connaissance de son adoration, comment on va adorer Allah Azza wa Jalla, tout ceci n'a été connu que par le moyen de la révélation, à travers le livre d'Allah et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il va nous donner les exemples par rapport à ces piliers. Et il a commencé donc par al-iman ou billah. Pour ce qui est d'al-iman bil malaika, c'est-à-dire l'origine de leur création, comment ils sont, quels sont les travaux dont ils sont chargés. Tout cela, on n'a pu le connaître que par la révélation. Exact, également pour ce qui est des rusul, pour ce qui est des envoyés, les connaître leur nom, connaître en fait leur communauté, qu'est-ce qui s'est passé entre eux et leur communauté, ça aussi ça fait partie de quoi? Du raïb. Connaître aussi les livres, c'est-à-dire les connaître leurs noms, ceux qui ont été cités dans le Coran, ceux qui n'ont pas, également ceux qui n'ont pas été cités, al-iman, al-mufassal, al-iman, al-mujmal, comme on l'a expliqué dans les cours de Tawhid, ça aussi ça fait partie de la foi dans l'invisible. Al-iman ou bil-yawm al-akhir, et savoir ce qui va se passer dans la tombe, comme délice et comme supplice, tout ce qui va arriver après, comme la connaissance du Haoub, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hisab, les comptes, al-Mizan, la balance, al-Sirat, etc. Tout ceci fait partie du al-Ghaib. Al-Iman bil-Qadari wal-Qadar, c'est-à-dire croire en la prédestination d'Allah Azza wa Jalla, ça fait partie de la foi en l'invisible. فإن كل ما كتب في اللوح المحفوظ مما سبق به قضاء الله وقدر لا يعلمه إلا الله فما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا يعلم الناس والمقدر إلا بوقوعه أو بحصول الخبر بوقوعه في المستقبل من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire croire à la prédestination, et que tout est écrit dans la table bien grillée, bien gardée, bien préservée, اللوح Allah al-Mahfouz, et que tout ce qui mima sabaqa bi qada'ullah, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit à l'intérieur, ça va arriver. Et donc tout ceci, il ne le connaît que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que Allah azza wa jalla veut qu'il arrive, il arrivera, et ce qu'il ne veut pas qu'il arrive, il n'arrivera pas. Et personne ne connaît ce qui était prédestiné, sauf au moment bien sûr où cette chose-là va advenir, où cette chose-là va arriver, ou par l'information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner dans al-mustaqbal, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des choses qui vont arriver dans l'avenir et qui font partie du raïb. Ces choses-là, on n'aurait jamais pu les savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les avait pas informés. Donc ça fait partie aussi de quoi? Ça fait partie également de l'invisible. Et c'est pour ça, après tout ce qu'il nous a cité le shir, il nous a dit, comme je disais au début, il nous a dit, c'est pour ça que qu'Allah azza wa jalla a cité le premier attribut dans le Coran, dans le mushaf, dans le livre que l'on lit, le premier attribut ou la première caractéristique des croyants, c'est quoi? C'est qu'ils croient dans l'invisible. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.